Backstage, le podcast, ce sont Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien supérieur du son. Ils nous font découvrir tous les deux les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, l'ensemble de leurs podcasts sur leur site backstagelepodcast.com, tout attaché en minuscule, backstagelepodcast.com. Et aujourd'hui, troisième épisode de l'entretien consacré à Gérard Cybelle. Gérard Cybelle, producteur et dénicheur de talents, au micro de Margot Delpierre sur un montage de Thomas Langlin. Un entretien, je le précise, enregistré en février 2019.
Vous pensez qu'il faut y aller de façon progressive si on veut pas exploser en plein vol?
Non, faut aller. Oui. Enfin, je vous dis non. Excusez-moi. Oui, je pense effectivement que vous avez complètement raison. Il faut y aller progressivement, étape par étape. Mais vraiment, ça se construit. Ça se construit une carrière. Ça semble un peu anachronique de vous dire ce que je vous dis, mais on le voit bien, on le voit bien. Vous voyez, par exemple, pour prendre certains artistes qui font des chroniques aujourd'hui, on se dit ben finalement, ils font une chronique, ça va leur amener du monde. Bah pas forcément, pas forcément. Là, j'ai une multitude d'exemples à vous citer. C'est pas pour autant que ça va leur amener du monde. Bon, il y a des chroniqueurs qui remplissent des salles, hein, bien sûr, mais ce sont surtout ceux du service public de France Inter. Mais je vois les gens qui sont sur RTL, qui sur Sud Radio, qui sur Europe font des chroniques assez régulièrement. C'est pas pour autant que ça leur amène du monde dans la salle. Ça, c'est des chroniques, hein. Je parle des chroniqueurs. Les vidéos, c'est un autre problème. Il y a des garçons, par exemple, comme Tristan Lepin, qui a un bon brin de petit talent. Ben, par ses vidéos, il est arrivé à aujourd'hui remplir des scènes, des salles de 500, 600 personnes. Pareil, pour un garçon qui s'appelle Max Bird, qui, grâce à ses vidéos, aujourd'hui remplit les salles. Voilà. Donc, est-ce qu'ils prennent la place d'autres artistes? Oui, non, ça dépend, c'est très discutable. C'est très discutable. Certains prennent la place, oui, de grands talents, ça faut bien reconnaître, qui n'ont pas eu la chance de réussir à poster des vidéos, qui rencontraient des milliers de vues. Voilà, c'est clair. Mais non, mais faut garder vraiment un bel espoir, ça c'est clair, parce que je vous le dis, quand on regarde bien ce qui se fait, mais faut gratter. On voit quelques talents qui vont percer. Voilà, j'ai deux, trois exemples là, notamment de filles qui vont à l'inverse de tout ce qui se fait, c'est-à-dire du mouvement Blanche Gardin, parce que ça c'est aussi un autre problème aujourd'hui, dans les choses extravagantes dont on parlait tout à l'heure, il faut bien parler aussi du phénomène Blanche Gardin qui est arrivé tout au sommet, qui est indubitablement iconique, parce que dans le moindre petit hameau, je dis bien hameau français, on vous parle de Blanche Gardin, bravo la réussite. Et aujourd'hui, derrière elle, ben, elle a une quantité de personnes, de filles bien sûr, qui sont des pâles copies de Blanche Gardin. Et si on est capable de faire un état des lieux, il y a bien derrière Blanche Gardin, facile, une quarantaine de filles qui font du sous Blanche Gardin. Alors, avec toujours le même propos, moi je suis femme, vous allez voir, tatati, tatata, papapi, papapa, et en poussant les choses tellement loin qu'on en est jusqu'à aujourd'hui à entendre quelle est la grandeur de leur clitoris. Mais c'est vrai ce que je vous dis, hein. Il y a quelques années, on parlait de beaucoup de sodomie, c'est-à-dire il y a 5-6 ans, notamment avec une fille comme Nora Hamzaoui. Bon, on était passé par derrière, ça commençait par là, et maintenant, carrément, c'est devant. Hein. Voilà où on en est. Et donc, voilà, c'est vrai que quand on voit ça, si on se fie à ça, on se dit, putain, l'humour, où va-t-il? Ben, il n'y a pas que... C'est pas le copie de Blanche Gardin. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont en train de percer dans l'ombre, avec une vraie écriture, avec des choses à dire, vraiment. Non, mais tout n'est pas perdu, hein, tout n'est pas perdu, mais c'est vrai qu'il y a des tsunamis, là, depuis quelques années, et on les en prend en plein dans la face, mais ça vous remet en question, vous aussi, ça fait du bien, hein, ça fait vachement du bien. Ouh là là. Ça vous redonne du courage et du cœur à l'ouvrage.
Il y a des clichés, alors, à éviter? Quand on est... si un jeune comédien, là, nous écoute et a envie de monter sur scène, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire?
Ah bah, il faut pas faire comme les autres, c'est clair. Il faut avoir, encore une fois, beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées, il faut aller les chercher, il faut les trouver. Ou si on n'a pas d'idées, celles qui existent, qui sont dans l'air du temps, eh bien, faut les angler, si je puis dire, donner un angle différent. Ouais. faut vraiment, encore une fois, je reviens, faut sortir du lot, et on peut sortir du lot que par des particularismes. Et il faut se battre parce que pour devenir quelqu'un de conséquent, il faut aller à l'encontre de Tristan Bernard. J'aime beaucoup cette phrase de Tristan Bernard. Tristan Bernard disait que le public aime être surpris par ce qu'il attend. Bien sûr qu'il aime le conventionnel. Il faut lui en donner du conventionnel au public. Mais si vous lui donnez que du conventionnel et que ce qu'il attend, ça fera pas un grand artiste. Il faut que violer ce public pour lui amener autre chose que ce qu'il attend, justement. Et ça, c'est pas toujours facile.
Vous me disiez avant l'entretien, plus le talent est grand, plus le combat est grand.
Ah,
qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est terrible. C'est terrible. Écoutez, c'est une espèce de constance que je ne m'explique pas trop, mais plus quelqu'un risque de devenir immensément connu, plus ce qu'il a à amener au public est justement refusé par le public. Et justement, peut-être parce que je venais vous dire, à propos de cette fameuse phrase de Tristan Bernard, le public aime être surpris par ce qu'il attend. Et quand vous lui donnez justement quelque chose qu'il attend pas, mais qu'on sent qu'il peut exister dans les 2 ou 3 ans, qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce qu'il faut se battre, oh là là, mon Dieu.
Racontez-moi votre rencontre avec Laurent Gérard. C'était quand?
Ah, Laurent Gérard, c'était une histoire de fou. J'étais en radio et je vois arriver un jour un garçon qui était intéressé par la radio, par les médias. On sympathise, on discute, on échange une fois, deux fois, trois fois. Et puis, on se trouve des points communs, c'est-à-dire on aime les mêmes choses, la comédie musicale, ouais, les mêmes auteurs. Ouais, on aime le cinéma, et puis on aime aussi l'humour, voilà. Et ça nous a vraiment rapprochés, donc on est devenus bons copains, on est sortis ensemble, et je voyais que ce garçon avait un talent fou, qu'il ne savait pas trop vers quoi diriger, et puis un beau jour, il m'imite une doublure, la doublure de Roger Moore, la doublure française, qui était interprétée par un comédien qui s'appelait Jean-Jacques, à l'époque, et ça m'a saisi. Et puis, il me fait aussi, dans la foulée, un syndicaliste de l'époque. Il imite un syndicaliste. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Où il est allé chercher tout ça? Et quand j'ai vu qu'il avait ce don, parce que c'est un don, d'incarner des personnalités, là, je me suis dit, il n'y a pas de doute. Il faut qu'il aille en catégorie humour. Et ça a commencé comme ça, petitement. Un spectacle qui a été écrit un peu laborieusement, qui était d'abord uniquement un spectacle parlé, qui n'était pas du tout un spectacle chanté. Et voilà, ça a démarré comme ça, et ça a été très long, parce que le public, là encore, ne le voulait pas, cet univers, ne voulait pas ce garçon. Personne ne voulait écouter Laurent Gérard, parce que on vous mettait tout le temps sans arrêt en pleine figure. Oui, mais il y a sous chapiteau, ou dans les Zéniths, un garçon qui les remplit, les Zéniths, les chapiteaux, il s'appelle Patrick Sébastien. Et Laurent n'arrivait pas à passer, mais vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout à passer. Et c'était plus que désespérant. Et il a fallu un jour trouver un coup de marketing. Vous voyez qu'on parlait du marketing tout à l'heure, pour qu'il puisse exister. Et à Laurent, on a adjoint une partenaire qui s'appelle Virginie Lemoine. Et d'un coup, un duo est né, qui était le duo Lemoine-Gérard. J'étais persuadé que ce duo allait marcher, parce que je disais à Laurent, écoute, dans l'histoire de l'humour, la France, je parlais au nom de la France, a besoin d'un duo. Dans les années 50, il y avait un duo vachement important, un duo qui a fait beaucoup de radio, avec une émission culte qui s'appelait Sur le banc, qui était interprétée par Raymond Souplex et Jeanne Sourza, qui a régné en maître pendant 10 ans dans les années 50 ou 60 sur la France. Puis après, il y a eu un fameux duo dans les années 70-80, un duo homme-femme, donc, qui était Sophie Domier et Guy Bedos. Et je me suis dit, mais tiens, s'il y a Gérard et Virginie Lemoine, quelques 30, 20 ans après, ça peut que marcher. Je pense que la France a besoin de trouver ce duo. Et le duo est né. Voilà, et le duo a été un accélérateur pour la carrière seul de Laurent. Mais ce duo était calculé, oui, c'était quasiment, n'ayons pas peur de le dire, un coup marketing pour que on puisse faire passer Laurent là où il est devenu aujourd'hui. Voilà. Mais ce qui n'a pas empêché que Virginie Lemoine, qui a été une comparse, une faire-valoir sans pareil, a fait elle aussi depuis une belle carrière. Mais je pense que sans cette idée de duo, pour booster une carrière et pour forcer l'ostracisme qu'il y avait autour de ce talent, eh bien, sans ce duo, je ne sais pas si Laurent serait devenu Laurent Gérard.
Dans son cas, lui, vous n'avez jamais perdu espoir?
Ah ben jamais non, mais des grands moments de de dépression en disant mais bon sang, quand le public va-t-il enfin reconnaître ce talent, hein. Mais ça a été pareil pour plein d'autres personnes, hein. Les débuts de Sophia Aram, c'était pas si facile que ça. Sophia Aram, toute une grande histoire. Sophia Aram, écoutez, tout est né dans mon bureau. Un jour, je reçois des textes anonymes d'une fille qui s'appelait Sophia Aram. Je ne la connaissais pas, alors qu'elle était chroniqueuse dans l'émission d'Arthur, Les Enfants de la télé. Et elle m'avait envoyé ces textes, et je me souviens très très bien, il y en avait 5 ou 6. Elle me demandait de les juger, et elle me mettait, ah, je sais pas comment on peut monter un spectacle, un one-man show. Je me suis dit, mais elle me prend un peu pour un débile, parce qu'une fille qui est dans l'environnement d'Arthur, bon, qui fait de la télé, qui en fait plutôt bien, qui ne sait pas comment on monte un one-man show. Et puis un jour, ben, elle m'a appelé, et j'avais lu ses textes, et je lui ai dit, ben écoutez, Sophia, j'y vois un immense, immense intérêt en ces textes. Bon, ben rencontrons-nous, on s'est rencontrés, et puis on lui a offert une première petite salle où elle a fait ses armes, et c'est né comme ça avec Sophia Aram. Mais c'était pas si facile que ça non plus au départ, hein, c'est vrai, parce que bon, elle amenait un souffle nouveau, c'était une fille qui écrivait vachement bien, qui menait une vraie réflexion sur le monde qui nous entourait, voilà, avec un premier spectacle qu'elle se construisait qui était pas si facile que ça, puisqu'il s'agissait d'une succession de personnages dans l'univers scolaire où il y avait eu un suicide. Donc c'était très ambitieux, c'était pas si facile que ça. Et puis à force d'opiniâtreté, ben il est arrivé, hein. Donc pas facile pour elle non plus, pas facile non plus pour une fille comme Nora Hamzaoui. Nora Hamzaoui, ben c'est né tout simplement d'une histoire de fou. Imaginez-vous qu'un jour, je suis avec un ami, on est au mois de juin, on est à Pigalle, on est à la terrasse d'un bar. Voilà, je bois avec cet ami. Et puis j'observe à 7-8 mètres de moi un groupe de jeunes, on va dire ça comme ça, où il y avait 4-5 personnes, et je dis à mon ami, je dis, écoute, je suis fasciné par cette fille, je la regarde, je n'arrête pas de l'observer, c'est plus fort que moi, elle m'attire, elle a un côté hypnotique, et il faut que je lui parle. Je dis, mais je sais pas comment je vais faire, parce que je peux aller l'aborder comme ça, tatatitatata, et puis le temps passait, et puis je leur tournais, c'est le cas de le dire, et je me suis enhardi, et je vais avoir. Et je lui parle avec Nora, je lui dis, écoutez, mademoiselle, voilà, nanana, je me présente, vous avez fait du spectacle. Elle me dit, ouais, j'ai vaguement fait du spectacle, j'ai joué en banlieue une pièce de Woody Allen, bon, c'est à peu près tout ce que j'ai fait au niveau spectacle. Et je lui dis, écoutez, ça vous intéresserait pas de faire du one-man show? Pourquoi je lui ai posé cette question? Parce que, d'entrée, alors c'était un instinct, j'étais persuadé qu'elle pouvait incarner l'archétype de la petite parisienne névrosée. Je me suis dit, il y a une place à prendre, il y a une niche, elle est possiblement faite, Nora Hamzaoui, pour l'occuper. Et bang, quelques années plus tard, elle l'occupait. Ça n'a pas été facile là non plus, parce que elle a dû monter 2 spectacles avant d'en avoir un qui marche. Quand je dis 2 spectacles, oui, elle les a montés, mais devant chaque soir où elle jouait, c'est-à-dire une fois par semaine, devant 5-6 personnes. Et puis c'était pas facile parce que elle avait pas le swing qu'elle a maintenant. Bon, et puis c'est au niveau du jeu, là aussi c'était hyper laborieux. Mais voilà, bon, pas trop trompé sur Nora. Je suis très content de tout ce qui lui est arrivé et la carrière, parce que c'en est une qu'elle est en train d'effectuer. Ben voilà, c'est né comme ça. Une rencontre dans un bar, je suis allé vers elle. C'est un peu fou, hein. Puis il y a d'autres rencontres aussi qui sont un peu curieuses. C'est celle notamment de Caroline Vigneault. Alors Caroline Vigneault, c'est tout un poème. C'est une longue histoire aussi à la Nora Hamzaoui, on va dire, ou à la Florence Foresti. Alors comment est-ce né? Ah, alors là, c'est très compliqué. Je m'occupais à l'époque du festival Juste pour rire Nantes Atlantique, qui était un gros festival, qui était le plus gros festival de France. Et il m'était venu l'idée de créer une section dans ce festival qui avait lieu à Nantes, une section autour de la parole, autour de l'expression vocale.
De l'éloquence.
Non ? Le mot est là. Merci. Autour de l'éloquence. Et j'avais que ça en tête. Je dis, pourquoi pas se faire rencontrer les gens du barreau de Nantes avec les gens du barreau de Paris. Et je connaissais personne au barreau de Paris. Et puis j'avais eu le souvenir très vague d'avoir rencontré une fille qui faisait partie justement de la troupe du barreau de Paris. J'avais dû le rencontrer dans une émission de France Culture, un truc comme ça. Et puis j'ai retrouvé son adresse et je l'ai appelé, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoutez, montons un spectacle de battles entre le barreau de Paris et le barreau de Nantes. Et on est parti comme ça. D'ailleurs, la battle, ça n'a pas pu se faire. C'est devenu un spectacle différent, uniquement conduit par 4 avocats de la ville de Paris, dont Caroline Vigneault, qui a été donné dans le cadre du Festival de Nantes. Et c'est un spectacle qui marchait vachement bien, qu'elle avait créé, elle, Caroline, inconnue, avocate, avec 3 de ses compères, si je puis dire, c'était des hommes, qui étaient autour d'elle. Et puis le spectacle a bien marché. Il a été donné 2 fois à Nantes, dans le cadre du Festival, donc juste pour rire. Et puis retour de Paris, d'un seul coup. Le festival terminé, Caroline vient me voir. Elle me dit, bon, bah ça y est, j'arrête. Je dis, vous arrêtez quoi, Caroline? Elle me dit, oui, ça y est. Je veux être humoriste. Et c'est parti comme ça. Alors, pas facile hein, non plus, parce que elle s'était mise dans l'idée, et elle avait raison, ô combien, de trouver un co-auteur. On l'a aidé, on l'a accompagné un petit peu, même pas mal. Et puis, ben voilà ce que ça donne aujourd'hui. Indubitablement, Caroline Vigneault est parmi les, allons-y carrément, hein, les 3 ou 4 filles qui comptent énormément dans la galaxie de l'humour féminin, voilà, en France. C'est né comme ça, voilà. Parce que si je crois, est-ce qu'elle serait devenue humoriste si elle n'était pas allée au Festival de Nantes avec ses amis avocats? Je n'en sais rien. Mais je pense que ça a vraiment aiguisé son avis, plus que jamais, de monter sur scène à Caroline Vigneault. Ouais, et aujourd'hui, c'est vraiment une très belle comédienne. Et on parlait tout à l'heure de carrière. Ben, elle est en train d'en faire une. Voilà.